renforcer les acquis sociaux pour ce qu'on appelle libéraliser. Libéralisme, c'est le capitalisme. Le capitalisme, ça n'a jamais été social, hein. Quand on parle de marchandisation, que tout soit profit, et quand on casse les services publics, par exemple si on parle du soin, de la santé, une majorité de gens qui vont avoir de plus en plus de difficultés à pouvoir se soigner correctement, et une minorité qui de toute manière en aura les moyens. Alors évidemment on va se retrouver avec des soins à deux vitesses là aussi, et des structures à deux vitesses, un hôpital public sans doute très désavantagé, dans lequel on aura de plus en plus de mal à avoir accès, et des cliniques privées pour une minorité de la population qui pourra se payer ça.
C'est dramatique. Quand on était éducateur, on était de gauche. Aujourd'hui, je suis pas sûr. C'est-à-dire que je suis sûr qu'on va voir sortir un tas, non pas d'éducateurs, mais d'experts de la relation. Ils pourront aller sur le marché du travail en bon travailleur social de droite.
Eh ben oui, le capitalisme a réussi à inventer le travailleur social de droite. On n'arrête décidément pas le progrès. Salut, c'est JBD, c'est la voix off. Bienvenue à toi dans cette émission consacrée au travail social qui, comme tous les autres services publics, santé, école, retraite, transport, etc., travail social qui est soumis au rouleau compresseur capitaliste qui privatise tout pour que quelques riches se fassent un peu plus de fric sur le dos de tout le monde. Et le travail social n'échappe pas à la mortifère logique capitaliste. On en parle aujourd'hui avec deux travailleurs sociaux, Marc et Pierre. Salut Marc.
Salut.
Tu fais quoi comme boulot ?
Je suis moniteur éducateur, diplômé depuis 2002. Je bosse dans une boîte en fait qui accueille des gamins autistes. C'est une boîte en fait qu'on dit expérimentale. Dans la boîte, on reçoit 10 gamins et on a une dotation annuelle de 1 million. Ce qui est plutôt énorme si on prend en compte qu'il y a 10 gamins, sachant que ça correspond à plutôt à une dotation qui correspond à 30 enfants. Quoi.
L'association, on peut dire son nom ?
Oui, ça s'appelle Agir et Vivre l'Autisme.
Ça prend combien d'années d'études pour devenir moniteur, éducateur ?
Moi, 2 ans d'études. Quand j'ai passé le diplôme, à l'époque, c'était un certificat d'aptitude. Aujourd'hui, là, du coup, c'est devenu un diplôme d'État, ce qui ne change strictement rien, ni en termes de rémunération, ni en termes de reconnaissance, de qualification, de niveau d'études.
Également autour du micro, Pierre, ou Pierrot pour les copains. Les auditeurs de Radio Béton connaissent bien ta voix, puisque tu es depuis des lustres l'un des animateurs de l'émission Rouge et Noir, anarchiste, communiste, libertaire, etc. Demain le grand soir, c'est tous les mercredis à 19h sur Radio Béton à Tours, en région centre. Et comme Marc, Pierrot, tu parles ici aussi en tant que membre du syndicat Sud Solidaire. Salut Pierre.
Salut JBD. Bah écoute, moi je suis travailleur social aussi depuis longtemps maintenant. Et je fais comme étude l'indemnité carrière sociale. J'étais plus destiné à l'animation. Mais finalement j'ai intégré un centre d'hébergement, après un petit moment d'expérience, on va dire multiple, dans lequel je suis depuis beaucoup d'années maintenant et qui héberge des femmes et des enfants, quelques couples avec des enfants, avec le cœur de métier autour de la question des violences conjugales et des femmes victimes de violences. Donc on accueille surtout ce type de public.
Alors c'est chouette de t'avoir au titre de travailleur autour de ce micro, parce qu'en général on t'entend essentiellement en tant que militant, et là ce sera les deux, militant et travailleur, mais de toute façon c'est pas incompatible, ton boulot c'est de toute façon une militance, un engagement.
Ben oui, enfin je rigole parce que en fait, c'est pas sécable, je suis pas un saucisson qu'on va découper en tranches. Bon, demain grand soir c'est pas forcément une émission anarchiste, bon, on dit que ça fait partie quand même du courant révolutionnaire et rouge et noir et libertaire au sens large. Je suis anarchiste depuis que j'ai 16 balais, toujours un militant anarchiste, révolutionnaire et communiste libertaire aujourd'hui. Et le choix de ce métier, je sais pas, ça tient peut-être du hasard, mais quand j'ai fait les études d'animateur, je pensais que comme j'avais joué de la guitare, ça serait suffisant pour chanter des chants révolutionnaires et les faire partager. J'avais un peu cette image idyllique au départ. Je me suis confronté aussi au monde du travail. En tout cas, si je suis resté longtemps dans la boîte, c'est parce que ça me posait pas trop de problèmes d'éthique au regard du boulot que je fais, d'accompagnement par rapport aux violences conjugales. J'aurais eu du mal à bosser avec la justice par rapport aux mineurs délinquants et d'autres trucs comme ça. J'aurais eu du mal à me penser flic à l'époque, et comme aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est complexe, hein, quand je dis ça, j'attaque pas les autres collègues, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, on parle des fois du conflit de valeurs chez les travailleurs sociaux, ça disparaît, mais c'est important parce que c'est une question d'éthique personnelle. Et je défends des positions, en tout cas, mon cœur de métier ne pose pas de problème quand je rentre à la maison.
Marc, comment on devient moniteur, éducateur ?
Moi, je pense que dans tous les cas, on fait le boulot qu'on a envie de faire. On est travailleur social, mais travailleur social, ça reste notre métier. On n'est pas non plus auréolé, hein. Demain, si j'étais pas payé pour ce que je faisais, je ferais pas ce métier-là. Et c'est bien justement parce que je suis payé avec mon boulot que j'essaie de le faire le mieux possible. Il y a un truc qui a été dit qui est intéressant, c'est qu'effectivement, est-ce que le choix d'être travailleur social, c'est militant ou pas ? Moi, j'aurais tendance à dire que non, non. Le fait d'être travailleur social, c'est pas un choix militant. Parce qu'on peut être travailleur social aujourd'hui et appliquer des lois de merde. Par exemple, là, il y a quelque temps, il y a eu la loi immigration là qui est sortie, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a les travailleurs sociaux qui bossent dans des centres d'hébergement d'urgence, par exemple, qui accueillent des personnes qui sont à la rue, et qui ont une obligation par la loi de filer des infos aux flics. S'ils accueillent, par exemple, des personnes sans papier, hop, directement, ils doivent prendre leur téléphone et donner les informations qu'il y a telle et telle personne pour que les flics viennent les cueillir le lendemain. Et c'est bien pour ça que je dis qu'à un moment donné, être travailleur social, c'est pas un choix militant. On peut être travailleur social et vraiment appliquer des politiques de merde. Par contre, après, la question, c'est plutôt, une fois qu'on est travailleur social, comment on fait rentrer aussi notre militantisme qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, aussi dans nos métiers? Et comment est-ce qu'on peut aussi refuser des politiques sécuritaires en tant que travailleur social à résister par rapport à ça?
Vous êtes membre ou affilié au syndicat Sud Solidaire Santé Sociaux ?
Pour ma part, je suis à Sud Santé Sociaux depuis 2001. J'ai tout le temps considéré être travailleur et être syndiqué, du coup, ça allait en même temps, tout simplement.
Pierre, sudiste depuis
2002, non, à peu près, pareil que Marc. Alors bon, il faut rappeler que l'histoire de Sud, c'est quand même, dans l'histoire du monde syndical, une histoire récente. Hein. Moi, je ne me serais jamais syndiqué à d'autres syndicats. C'est parce que Sud s'est construit et s'est développé que la question s'est posée dans notre boîte et qu'à l'époque, il y a une section syndicale qui s'était montée. Donc voilà, il y a toujours dans ma boîte des syndiqués et puis donc j'ai une activité syndicale depuis cette époque-là, quoi.
Marchandisation de tout, des retraites, de l'éducation, de la santé, bien sûr. Une casse volontaire qui est menée par tous les gouvernements qui défilent, hein, qui se prétendent socialistes ou pas, qui mènent tous la même politique de casse de nos services publics, dans la vue évidente de les marchandiser, hein, et que quelques riches se fassent du pognon sur le dos de ce qui est encore le bien commun, pour quelque temps. Est-ce que marchandisation de nos services publics, et notamment de la santé, c'est le mot-clé qui nous réunit autour de cette table aujourd'hui, et dans la rue, Marc ?
Bah oui, tout à fait. La marchandisation, je pense qu'effectivement, aussi dans le secteur social ou médico-social, c'est ce qui arrive à grands pas. C'est-à-dire que même dans les formations, par exemple, dans notre secteur, en tout cas en tant qu'éduc, on nous vend ce qu'on appelle la loi 2002. Une loi qui est formidable, où on dit que maintenant l'usager est au centre du dispositif, qu'il y a plein de trucs qui sont révolutionnaires du coup pour lui, qu'on le prend en compte, qu'il a un projet du coup individuel qu'on revoit tous les 6 mois. Mais surtout dans cette loi, en fait, ce qu'il faut vous plier de dire, c'est qu'il y a 10 pages de gratin et il y a surtout 30 pages d'économique. Depuis la loi 2002, en fait, ben, on remet en question quelque part aussi le financement des boîtes de nos secteurs. Moi, pour ma part, là, du coup, je suis dans le médico-social. Nos boîtes, en gros, sont sous financement sécu. Et du coup, là, depuis la loi 2002, on a mis en place ce qu'on appelle les CEPOM, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Ce qui fait que les établissements du médico-social, on va leur donner du pognon pour 5 ans, avec l'idée qu'elles doivent avoir des objectifs, surtout en termes de rentabilité.
Soins, objectifs, rentabilité, ça a l'air d'être des mots qui, normalement, en toute logique, ne vont pas ensemble.
Ah ben effectivement, de toute façon, c'est une sémantique qui vient directement de l'entreprise lucrative. Cette loi, ça fait qu'on ne demande plus aux boîtes d'accompagner les personnes qu'on accueille par rapport à leurs difficultés personnelles. On leur demande de pondre des objectifs, mais uniquement dans un but marchand. C'est-à-dire que si, au bout des 5 ans, elles n'ont pas atteint leurs objectifs, ça veut dire que pour les 5 prochaines années, on va leur baisser leur budget. Ce qui fait qu'en fait, on a des boîtes globalement qui vont tous se faire concurrence entre elles pour savoir qui peut faire le plus de choses avec le moins de moyens. Si on a une boîte qui nous propose un super CEPOM, allez, on va dire 5 objectifs, et que la même boîte à côté a exactement les mêmes objectifs, par contre coûte plus cher, et ben ça veut dire que la boîte qui est à côté, on va pas lui accepter son financement.
Ça s'appelle un appel d'offres, là, ce que t'es en train de me dire. C'est comme dans le bâtiment ou...
Eh ben c'est exactement ça. Parce que justement, il faut bien se dire que les appels d'offres, après, ils ont été inscrits dans la loi en 2005, et que c'est bien l'objectif de tout ça. C'est-à-dire qu'on n'accompagne plus les gens, maintenant. Les gens, ça devient des variables d'ajustement budgétaire, grosso modo, pour faire du pognon. Du pognon ou bien pour faire des économies. Des économies, j'ai envie de dire, pour les boîtes du coup qui sont issues des statuts associatifs non lucratifs, et du pognon pour les boîtes qui arrivent petit à petit dans notre secteur, qui sont aussi, elles, du privé lucratif. C'est des boîtes, à un moment donné, comme ça a été le cas dans le sanitaire, par exemple. Là, je vais prendre l'exemple pour les EHPAD, au niveau de Korian, où c'est des boîtes qui sont cotées en bourse aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est des boîtes qui vont accueillir pour Korian des personnes âgées. Par contre, non pas avec l'objectif d'accompagner les personnes âgées ou même d'accompagner la fin de vie, mais surtout en face du pognon sur les personnes qu'on accompagne. C'est-à-dire, c'est des boîtes, je vais donner l'exemple, au niveau alimentaire, par jour, chez Korian, c'est 4 euros par personne accueillie par jour. C'est-à-dire, c'est des grammages qu'on fait de l'alimentation pour être sûr de ne pas en donner trop. Et c'est aussi des personnels à qui on va mettre la pression si jamais elles ont eu le malheur d'utiliser une couche de trop par rapport au nombre de couches qu'elles ont définies par personne dans la journée. Si on a cette logique financière avec un accompagnement de qualité qu'on voudrait faire, c'est incompatible. En fait, on se retrouve dans des postures en fait, où on sait qu'on fait de la merde, pourtant on aime notre boulot, mais on sait qu'on fait de la merde et qu'on ne donne pas les moyens de le faire correctement surtout.
Pierre, t'aurais imaginé ça quand t'as embrassé le métier, qu'un jour l'autisme puisse être coté en bourse? Parce que finalement, c'est un peu ce que Marc vient de nous expliquer.
Moi, je suis né en 62, donc j'ai fait mes études au début des années 80. On était sur le début de l'ère Mitterrand, donc pendant les mauvaises surprises, hein, puisque après, il y a un consensus qui s'établit dans la mesure où il a fait qu'appliquer le plan Bargiscard, donc ses prédécesseurs. Et depuis, ce consensus fait qu'on a beau changer de gouvernement entre gauche et droite, et c'est la même politique qui se mène. Tu connais le sujet parce que tu l'as abordé plusieurs fois dans tes émissions, c'était de casser le compromis social qui avait créé ce qu'on a pu appeler l'État social et les Trente Glorieuses, etc., où il y avait une dimension dans le partage des richesses, pas totale, qui était un peu différente, on va dire, mais établie sur un compromis d'après-guerre qui s'est fait entre les gaullistes, donc la bourgeoisie aussi, et le Parti communiste qui avait décidé de ne pas faire la révolution. Donc on pourrait interroger aussi cette histoire-là et cette construction. En tout cas, la bourgeoisie l'interroge parce que elle ne fait jamais assez de profit. Et depuis toutes ces années-là, le truc c'est de casser les acquis sociaux, donc acquis par la lutte, des classes ou compromis. Hein.
Les conquis donc.
Les conquis, voilà, absolument, c'est un bon terme. Pour ce qu'on appelle libéraliser, mais enfin bon, le libéralisme c'est le capitalisme. Le capitalisme ça n'a jamais été social, hein, faut le savoir. Tu parlais de la casse des services publics, et on est en plein dans la casse des services publics. On est dans la casse de ce compromis social. Hein. On a de plus en plus de pauvres, on les appelle exclus, mais on reviendra là-dessus.
Les laissés pour compte de la croissance aussi.
Enfin non, laissés pour compte, c'est moins emmerdant que les exclus. Quand on parle de marchandisation, c'est-à-dire qu'il faut que tout soit profit, et qu'on voit bien que quand on casse les services publics, et donc ce qui relève d'une mission d'intérêt général pour l'intérêt de la population, de la majorité de la population, devient un machin dans lequel, par exemple, si on parle du soin de la santé, c'est une majorité de gens qui vont avoir de plus en plus de difficultés à pouvoir se soigner correctement, et une minorité qui, de toute manière, en aura les moyens. Alors évidemment, on va se retrouver avec des soins à deux vitesses là aussi, et des structures à deux vitesses, parce que on aura un hôpital public sans doute très désavantagé, dans lequel on aura de plus en plus de mal à avoir accès, et des cliniques privées pour une minorité de la population qui pourra se payer ça. Alors c'est pas tout à fait pareil, parce que dans le travail social, on peut difficilement parler comme ça de profit en tant que tel, c'est pas comme un commerce, mais on se retrouve dans cette vision donc, du monde capitaliste, qui fait que tout doit être pensé à l'économie, et pas au pourquoi et au sens de pourquoi ce boulot on le fait, et qui normalement, si on reprend les choses dans le bon sens, devrait tendre à disparaître. Puisque si on imagine un monde meilleur, il n'y aurait pas forcément besoin de travailleurs sociaux. En tout cas, dans mon domaine, sans doute. Sauf peut-être dans certains domaines, je pense, parce qu'évidemment, Marc bosse dans le domaine de l'autisme, et que, évidemment, dans certains domaines très spécialisés, eh ben, on aura toujours besoin de la compétence des travailleurs sociaux. En ce qui me concerne, j'espère que si on fait la révolution, mais ça ne sera pas un coup de baguette magique, on pourra penser qu'il y aura plus de violence faites aux femmes. Donc, j'aurai plaisir à quitter mon boulot, à faire quelque chose d'utile ailleurs. Mais voilà, enfin, on pourrait penser les choses comme ça. En tout cas, le problème, c'est que ce système ne produit que des problèmes. Donc, tant qu'il y aura des problèmes, il faudra des travailleurs sociaux. Et là, ce qui se passe quand on parle de marchandisation, c'est que on casse ce qui s'appelait au départ la mission d'intérêt général. Et on parle plus de mission d'intérêt général. Maintenant, on parle même plus d'association. Le mot qui vient de plus en plus à la bouche maintenant des employeurs, c'est opérateur. tout à l'heure, tu évoquais ça avec Marc, c'est les appels d'offres, les appels à projets. Bien sûr, ce sont des appels d'offres. Donc ça veut dire...
Est-ce que toi, tu peux témoigner de ça dans ton secteur d'activité, pareil, des associations ou des structures qui seraient plus performantes? Oui, mais moi, je les emmène à la piscine et je coûte moins cher.
Ouais, alors oui, on va pas tarder à arriver à ça, parce que comme dans le monde hospitalier, on va arriver de plus en plus, on arrive à la tarification à l'acte. C'est-à-dire qu'au niveau des financeurs, mais c'est même pas je les emmène à la piscine, hein, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que ça, ça voudrait dire que tu défendrais une certaine qualité au travail. Donc tu peux avoir, sur, par exemple, sur un centre d'hébergement où tu as tant de personnes à accueillir, etc., avoir deux travailleurs sociaux qui se relaient et donc qui font que garder les murs, ou alors il y en a une dizaine, ils pourront faire vraiment du boulot d'accompagnement social éducatif. Mais les financeurs, c'est pas ça qu'ils voient. D'ailleurs, ils ont des tableaux, c'est vous faites de l'accueil, vous faites de l'hébergement, et vous nourrissez combien de repas par jour, et au bout du compte, tu as un tableau avec, bah, il doit y avoir combien de salariés et combien de financements. Donc ça n'a plus rien à voir avec qu'est-ce que tu fais comme accompagnement. Et de plus en plus, on est là-dedans, c'est-à-dire que ce que disait Marc en évoquant la loi de 2002, c'est qu'on est rentré de plein fouet là-dedans. La rentabilité et le rendement. En fait, quand on parle de qualité, eh ben, on se retrouve malheureusement avec le discours de la production capitaliste, c'est-à-dire comme si on bossait chez Danone avec le nombre de yaourts à produire. Bon, et donc, évidemment, dans le champ du travail social, ça donne des trucs de fou total. Et évidemment, tout le discours, ce que tu l'évoquais aussi, il se met à changer. C'est-à-dire qu'on emploie tous les mots de l'entreprise, c'est-à-dire l'optimisation.
L'usager qui est devenu un client.
Ouais, mais l'usager, c'est pareil. Même le mot usager m'interroge, quoi. Je veux dire, c'est pas ça le problème. Mais il y avait déjà pire dans cette forme de glissement, c'est de parler des exclus, donc de l'exclusion. Mais des exclus de quoi? Bah, du quoi? On se demande bien. En tout cas, quand on parle du terme société, en général, c'est-à-dire c'est un corps social, s'il y a des gens qui sont exclus, il faudrait se poser la question. C'est-à-dire que là, ce qu'on veut laisser entendre, c'est que les exclus, c'est des gens qui n'ont pas réussi par eux-mêmes à s'inclure. Là, on est en plein dans un discours complètement individualisé, alors qu'on est face à un problème réel de société, et de système, et de choix de société. C'est-à-dire qu'on a un système qui, par exemple, par rapport au partage du temps de travail, ou au monde du travail, fait qu'il y a des gens qui n'ont pas accès au travail, ou qui sont très précaires. Donc, évidemment, quand ces gens-là ils sont dans la misère, ben, y en a qui déconnent un peu. Donc on va les appeler des cas sociaux, des exclus, des ce qu'on voudra, il faudra des travailleurs sociaux pour les encadrer. Mais tout est comme ça. Et donc la question de poser l'exclusion en ces termes, c'est de masquer la réalité du système capitaliste qui crée ces inégalités à tel point qu'il faut parfois corriger. Et là, pour corriger, eh ben, y a des gens qui vont être payés une peau de chagrin parce que c'est la réalité des travailleurs sociaux, comme dans le service public. Aujourd'hui, les salaires d'un site ou des infirmiers ou de ce qu'on voudra, c'est pareil. C'est réparer les problèmes avec de moins en moins de moyens, à la fois financiers et humains. Et toi, tu passes ton temps à expliquer où t'en es dans ton rendement. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle de l'accompagnement social éducatif, tu passes plus de temps aujourd'hui parce que, en plus, t'as la magie des ordinateurs et de l'informatique, parce qu'avant, on écrivait ça sur des feuilles, mais tu passes plus de temps à expliquer ce que tu fais de moins en moins, parce qu'il faut défendre ce que tu fais pour pouvoir continuer à préserver les financements, parce qu'aujourd'hui, tout est au taquet. Et quand Marc parlait des CEPOM, ben, on est en plein dedans. C'est-à-dire que un CEPOM, donc le contrat d'objectif et de moyens, et ben, c'est la même chose que tout à l'heure quand je parlais de Danone et de la chaîne de production des yaourts, parce qu'au bout de la chaîne de production, les financeurs te demandent une forme de production. Et donc, on en arrive à des trucs de dingue, parce qu'évidemment, rapporté à notre travail, c'est un truc de fou, parce que une grande partie de notre travail se fait dans l'informel, c'est-à-dire dans la relation qu'on peut construire avec les personnes avec lesquelles on travaille. Tiens, tu vois, je parle de personnes, moi je parle pas d'usagers, je parle pas de clients. Cet informel-là, il est pas complètement mesurable.
C'est du temps?
Ben, c'est un temps énorme. Et c'est un temps énorme. Alors, en fait, la plupart du temps, et même quand on bosse avec des autistes, qu'on bosse avec ce qu'on voudra, le ressort à ton accompagnement, il est basé sur la relation. Si t'es pas capable de créer une relation avec la personne avec laquelle tu vas travailler, ton accompagnement, il est foutu, parce que t'auras pas d'accord, t'auras pas d'accroche, etc. Et donc, construire la relation, ça se mesure pas en temps. Tiens, j'ai passé deux coups de fil aujourd'hui, j'ai passé 10 minutes ou une demi-heure, c'est pas la même chose, ça se passe autrement. Et ça, c'est pas mesurable. Or, ce système-là, maintenant, et par rapport au travail social, veut tout mesurer. Combien de temps tu vas passer au téléphone, même le temps que tu vas aller pour aller pisser ou fumer ta clope, et les pauses qu'ils calculent pour savoir de combien de temps tu as besoin pour aller bouffer, et le temps que tu vas passer à écrire ce que tu as fait et de moins en moins dans la journée. Mais l'informel, ou le temps que tu vas passer à construire la relation, ça peut pas se mesurer. Donc ça, c'est foutu. Et si tu travailles comme ça, et ben c'est ton travail qui se dégrade, c'est la qualité de ton travail qui se dégrade. Et là, quand j'aborde le terme qualité, ça ne prend pas le même sens que le mot qualité qui s'impose de plus en plus dans le travail social et qui se rapporte là encore, de plus en plus au rendement et à la production.
Depuis qu'on a commencé cette conversation, là, vous parlez en fait de la casse, de l'outil, des conditions de travail, mais faites-nous rire. Parlez aussi quand même de vos conditions de travail, justement, du temps que vous y passez, et pour le mirobolant salaire de combien après 30 ans de... Allez, fais-nous rire, Pierre. Tu gagnes combien par mois ?
Je suis à 1800 balles à 30 ans de boîte. Hein. Et encore, j'ai de la chance, c'est parce que comme je fais partie des plus vieux, on avait dans les différents changements de convention collective acquis certaines primes qui ont été intégrées au salaire, parce que les primes de nuit, des machins comme ça, ou les primes de week-end, parce qu'on bosse aussi le week-end, ça avait été intégré au salaire. Aujourd'hui, quelqu'un qui rentre dans la boîte n'aura même pas l'espoir de gagner ce peu de choses après 30 ans de boîte.
Avec des découchés, avec des week-ends d'astreinte, avec des trucs comme ça. Et je suppose que c'est un peu plus de 35 heures par semaine. Enfin, est-ce que tu comptes ton temps ?
Non, attends, ça c'est autre chose. Ça, légalement, tu fais tes 35 heures et moi, mon employeur ne me demande pas de faire davantage.
D'accord. C'est ce qui est sur le papier. On sait bien qu'en vrai, c'est pareil. J'en discutais avec vos collègues urgentistes à l'hôpital. Quand il y a des gens qui arrivent avec un marteau dans la tête, ils disent pas aux collègues « Bon, bah, je vous laisse vous démerder avec le futur mort, là. Moi, je rentre chez moi parce que j'ai fait mes 35 heures. »
Non, mais c'est vrai. Mais là encore, faut être clair. Moi, par exemple, je sais pas toujours à quelle heure je vais débaucher. Peu connu dans la boîte pour ça, mais c'est pas pour qu'on tire les horaires au-delà des 35 heures. Il faut qu'on soit clair. Hein. C'est vraiment un choix personnel. Parce que c'est vrai que c'est pas un boulot... t'éteins pas la lumière à une telle heure, ça se passe pas comme ça, d'accord ? Mais voilà, je me suis parfaitement attaché, non seulement aux 35 heures, mais aussi à la baisse du temps de travail. Donc c'est pas le souci, c'est vrai qu'on sait à quelle heure on embauche, et qu'on sait souvent, pas souvent, à quelle heure on va débaucher, ça dépend qu'est-ce qu'il y a à faire, ça dépend s'il y a des problèmes, si... Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe en tout cas.
C'est juste pour souligner qu'officiellement, tu travailles 35 heures, ou je sais pas combien, je sais pas ce qui est marqué sur ton contrat, mais que tu fais certainement beaucoup d'heures sup qui ne te sont pas payées.
Alors attention là encore, parce que tu parles avec un syndicaliste.
Zut, pardon.
Si tu parles d'heures sup, c'est autre chose. Parce que quand on considère ça comme des heures supplémentaires, ça doit être payé. Voilà. Moi, je considère ça comme des fois, je débauche pas à l'heure parce que je veux finir ce que j'ai commencé et que je suis pas payé pour ça. Voilà.
On dira pas à tes employeurs que tu travailles plus que ce que t'es payé. Marc, ça fait combien de temps que tu bosses, toi ?
Depuis 2001. Alors moi, par contre, en termes de salaire, justement, ben. Moi, je suis payé 1700 balles par mois.
Le nanti, pareil.
Oui. Mais ce qui est comme incroyable, du coup, je vois ça avec Pierre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la réalité, c'est qu'on fait un boulot qui est assez proche, ok, avec des personnes différentes qu'on accompagne, mais en fait, on est sur des conventions collectives aussi qui ne sont pas les mêmes. Et attention, hein, je ne dis pas qu'être payé 1700 balles au bout de 19 années d'ancienneté, du coup, c'est non plus énorme. Hein. Mais juste pour préciser qu'il y a aussi une inégalité aussi entre travailleurs et travailleuses, en fonction des boîtes où on bosse et des conventions collectives dont on dépend.
1700 balles avec des découchés, avec des astreintes
Absolument pas. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, par contre, je suis attaché aux 35 heures et il est hors de question que je bosse plus. Moi, la logique, elle n'est pas la même, justement. Par contre, j'ai un employeur qui aimerait bien que je reste après mon boulot, du coup, pour continuer un petit peu à bosser, parce que comme, justement, si je fais ce métier-là, c'est justement que sur des valeurs humanistes, un petit peu, et dans la logique de tout le temps m'en demander plus, alors qu'à un moment donné, bah, j'ai quand même un boulot qui est aussi encadré au niveau de la loi par rapport à mes horaires. Donc, effectivement, pour moi, il est hors de question que après l'heure, du coup, j'y sois encore. Bon, après, moi, j'avoue que j'ai certains collègues, du coup, qui ont un petit peu du mal à faire cette passerelle. Et comme j'ai quand même des collègues bah, qui font leur temps de travail hebdomadaire, par contre, qui se retrouvent le soir à la maison, du coup, à encore bosser, justement, parce qu'ils sont à la bourse ou des trucs qu'ils n'ont pas eu le temps de faire dans la journée. Et la question, c'est plus la question des moyens, j'ai envie de dire, pour faire notre boulot. Et moi, je veux juste revenir sur un truc. Là, tout à l'heure, il y a Pierre qui parlait un petit peu de la tarification à l'acte, là, du coup, qui est arrivée dans notre secteur. Dans le médico-social, en fait, on appelle ça le projet Séraphin-PH. Après, dire ce que ça veut dire exactement, j'en sais strictement rien. Tout ce que je sais, en gros, c'est que la boîte où je bosse, en gros, on a été un petit peu test par rapport à ça sur le département. C'est-à-dire, en gros, que pendant un mois, du coup, qui était réparti sur deux cycles de deux semaines, en gros, on s'est retrouvé à devoir quantifier et noter tout ce qu'on faisait. Du coup, ça en arriverait à des aberrations. C'est-à-dire, j'accompagne un gamin aux toilettes, je note, et il y a une ligne de code pour ça. Je travaille la relation avec ce gamin, ok, je le fais combien de temps ? Je le fais un quart d'heure, très bien, ben, je note que je l'ai fait de 9h à 9h15, et il y a une ligne de code pour ça. J'ai fait une activité collective avec des gamins à la durée 20 minutes, je dois noter avec quel gamin j'ai fait ça, mais les gamins, attention, pas par leur prénom, mais par un code aussi. Parce qu'après, ça veut dire que pour chaque gamin de tout ça, il est ressorti par journée une ligne de code qui correspondait à ce que tu avais fait avec le gamin, du coup, et concrètement, avec l'objectif de pouvoir, par contre, quantifier d'un point de vue pognon, combien va coûter l'accompagnement de ce gamin. C'est-à-dire que si on suit cette logique-là, Une fois que ça sera mis en place, la tarification laxe dans nos boîtes, ça voudra surtout dire qu'il y a des boîtes pour continuer d'exister, parce que c'est aussi la réalité, étant donné qu'ils se font aussi la guerre entre elles sur des appels d'offres, du coup, pour pas disparaître, qu'il y a des boîtes qui vont faire plus de tel type d'accompagnement, non pas parce que les enfants en auront besoin, mais plutôt parce que ça rapporte plus. C'est-à-dire, comme à l'hôpital, à un moment donné, on se retrouve avec des aberrations où on ne va pas faire certains soins à des patients parce qu'ils en auraient besoin, mais on va en proposer d'autres parce que ces soins-là, du coup, ça rapporte plus à l'hôpital, et dans le médico-social, c'est la même logique. Comme disait Pierre, à un moment donné, c'est aussi le sens de notre métier aussi qu'il faudra interroger. Parce que on est comme dans les seuls corps de métier dans le travail social en dehors du public qui avons réussi à un moment donné à faire sortir notre boulot de la définition capitaliste du travail. C'est-à-dire, on ne travaille pas pour produire de la valeur économique au sens capitaliste. Par contre, petit à petit, c'est ce qu'on nous demande de faire. Et qu'à un moment donné, on ne peut pas bosser correctement avec des personnes qu'on accompagne, si en gros, la logique, elle est non pas de pouvoir apporter une réponse, c'est que ces personnes auraient besoin dans leur vie, mais plutôt, en gros, ce que la boîte aurait besoin financièrement pour continuer d'exister. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, en tant qu'éducateur, là, pour ma part, ça veut dire que tu te retrouves dans des paradoxes où tu vas te dire « Ah ben non, je vais pas pouvoir faire ça là maintenant parce que je dois faire ça, parce que y a mon patron qui m'a dit qu'il faut que je fasse ça, parce que c'est bien pour l'entreprise, du coup, parce qu'il y a la boîte d'à côté, l'association d'à côté, du coup, sinon, qui va nous rafler notre part de marché, du coup, et qu'après... je me retrouve à me dire individuellement que si c'est l'autre boîte du coup qui récupère le marché, je dis marché exprès, ça veut dire que moi j'aurai plus de boulot. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on peut plus faire notre métier du coup comme on voudrait. Et ça, je pense que c'est important. Et je pense notamment que c'est important parce que en fait, quand j'ai commencé à bosser, effectivement, j'étais plein un peu d'idéalisme par rapport à comment ça se passait quand on était travailleur social, c'est-à-dire que j'allais avoir une utilité sociale par rapport au boulot que je choisissais. Mais en fait, aujourd'hui, je m'aperçois que de plus en plus, c'est pas le cas.
T'es devenu un agent économique.
Exactement. Et c'est bien pour ça que je disais que aujourd'hui, la nécessité, c'est de recréer du militantisme dans notre secteur, mais recréer du militantisme en tant que travailleur social. En tant qu'éducateur, on peut pas accepter qu'à un moment donné, le sens de notre travail disparaisse. On peut pas non plus accepter que le sens de notre boulot, ça soit faire de l'argent pour la boîte pour laquelle on bosse. Quand on parlait de sémantique tout à l'heure, nos patrons, ils sont pas meilleurs ou pires que les autres. Ils sont comme les autres, ils sont comme le patronat du lucratif. C'est-à-dire, sauf que le pire, c'est qu'on a des patrons qui vont se cacher derrière, on va dire, des valeurs humanisme en nous disant, s'ils font ça, c'est pour aider les autres, etc., etc. À côté de ça, par contre, ils vont avoir des politiques de gestion du personnel, du coup, qui sont dignes des grands patrons capitalistes, quand même.
En t'écoutant, Marc, me revenait des conversations que j'ai eues avec de tes collègues qui travaillent dans le secteur hospitalier, qui disent, les employeurs, l'hôpital, l'administration, en fait, ils savent qu'on a une conscience. Et ils s'en servent pour nous faire bosser plus que ce qui est marqué en principe sur notre contrat de travail. Parce qu'ils savent qu'on va pas laisser, par exemple, une collègue qui est infirmière urgentiste, elle me dit bien sûr que quand j'ai officiellement fini ma journée de travail et que si des gens au bord de la mort arrivent dans le couloir des urgences, bien sûr que je reste avec les collègues pour continuer à sauver des vies parce que je pourrais pas rentrer chez moi. D'ailleurs, ça se voit aussi beaucoup dans le monde associatif, de la culture, tu comprends, puisque c'est la culture, c'est humaniste, donc tu peux bien bosser plus que ce qui est marqué sur ton contrat. En tout cas, ce chantage, finalement, à l'humanisme, c'est une arme qu'on retrouve beaucoup dans le soin.
Ah ben non, mais effectivement, je suis pas neutre, attention, je suis aussi syndiqué, et justement, c'est-à-dire que même dans les revendications qu'on peut avoir en tant que salarié, une fois qu'on est salarié, c'est pas la même chose. On a quand même des patrons qui vont essayer de jouer un petit peu sur cette corde sensible, c'est-à-dire un petit peu, si vous faites grève, si vous avez des revendications, si vous allez en manifestation, du coup, pendant ce temps-là, qui c'est qui va s'occuper des gamins ? Vous pouvez pas faire ça, imaginez un petit peu, vous avez comme un cœur, imaginez un petit peu à quelle place vous le laissez, eux. Et c'est ce chantage-là qu'il va y avoir aussi. Parce qu'à un moment donné, ce qui se passe par rapport aux personnes qu'on accueille, ça se passe aussi pour nous. On est aussi dans un secteur où on a une casse complète de nos droits, de nos conquis sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos conventions collectives, du coup, dans notre secteur, globalement, elles sont tous attaquées. Historiquement, on a conquis du droit en tant que salarié. Et aujourd'hui, la première variable d'ajustement, comme diraient nos patrons, dans une boîte pour faire des économies, c'est les salaires. Pour les travailleurs sociaux, c'est compliqué de se mobiliser. C'est compliqué de se mobiliser déjà parce que effectivement, bah, même si les patrons ils vont nous dire oui, mais qui c'est qui va s'occuper des grimpeurs en ce temps-là, bon, bah, réellement, je pense que tous et toutes, bah, on a aussi une conscience par rapport à ça. Et le problème, c'est qu'on a une culpabilité de par notre métier. Culpabilité aussi de revendiquer des droits pour nous. On a une culpabilité aussi de se dire qu'à un moment donné, on peut aussi avoir des revendications en termes de rémunération. C'est un truc qu'on a du mal à faire dans nos métiers.
C'est pas un truc qui émerge dans les discours que j'entends chez les soignants. Hein. Tout le monde me parle de la casse de l'outil, des patients, des soins, du cadre de travail. Les revendications salariales, les tickets restaurants, j'en entends jamais parler.
Oui, bon, les tickets restaurants, ça c'est un autre débat, j'ai envie de dire. Et j'ai envie de te dire, c'est d'un point de vue syndical, la revendication, c'est les tickets restaurants, bah, je pense qu'on serait mal barré. Non, mais à un moment donné, il faut bien dire que la casse de l'outil, on en fait partie. On est aussi l'outil de travail, j'ai envie de dire. Donc, si on casse nos statuts, si on casse aussi nos qualifications en termes de métier, là je parle des diplômes, comme c'est ce qui arrive dans notre secteur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les éducateurs spécialisés, les moniteurs éducateurs, ou bien, pour Pierrot, les animateurs socioculturels, c'est des choses qui tendent à disparaître, pour essayer de nous mettre sur un statut qui serait un peu un statut où on fait tous et toutes le même métier. Aujourd'hui, en fait, on a notre rémunération. Si elle augmente, c'est le premier critère, c'est l'ancienneté. Et d'ailleurs, c'est très bien. Mais justement, pour faire le lien avec la sémantique, aujourd'hui, dans notre secteur, on parle de plus en plus de compétences. Voilà. On parle plus de qualification, on parle de compétences. C'est-à-dire, les compétences, ça fait un lien avec du savoir-être. Et le savoir-être, c'est individuel. Mais c'est-à-dire, c'est pas par rapport à une formation qu'on a pu passer, c'est pas du savoir-faire. C'est-à-dire que l'objectif derrière tout ça, pour le patronat associatif, notre secteur, c'est de mettre un salaire minimum à tout le monde. On a tous et toutes le même salaire, la même base minimum. Par contre, après, pour chacun et chacune, on pourrait avoir plus ou moins de pognon en plus, uniquement en fonction des compétences qu'on a. C'est-à-dire, est-ce qu'on sait gérer un projet, gérer un groupe, enfin bref. Ça, c'est de la merde, hein. Faut bien se dire que...
Est-ce que tu sais remplir un tableau Excel? C'est devenu très important, apparemment, dans le métier.
Oui, c'est ça. Est-ce qu'on sait gérer un tableau Excel? Mais la réalité derrière tout ça, c'est même pas celle-là. C'est grosso modo, est-ce que dans notre boîte, est-ce qu'on a des revendications ou pas? Parce que c'est ça, la réalité. C'est que ces critères de rémunération supplémentaire, grosso modo, hein, faut pas se mentir, ils seraient donnés surtout en fonction de si dans ta boîte, tu l'ouvres ou pas. Est-ce que t'emmerdes ton employeur ou pas? Comme si tu l'emmerdes pas, eh ben, t'es un bon petit soldat. Et du coup, effectivement, tu aurais plus de salaire. C'est un glissement majeur. Parce que si, effectivement, notre critère d'évolution de notre rémunération, c'est plus l'ancienneté, mais c'est nos compétences, et ça, je le dis avec des guillemets, hein, vraiment, quand je dis ça, ça voudrait dire qu'à un moment donné, on aurait des travailleurs sociaux bien lisses, qui appliqueraient uniquement ce qu'on leur demande de faire, qui appliqueraient uniquement les politiques aussi qu'on leur demande de faire, et qui appliqueraient surtout aussi toutes les lois sécuritaires qu'il y a dans notre secteur, ou bien tout simplement bah, les lois marchandes. C'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune conscience politique par rapport au boulot qu'on fait. C'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune revendication militante par rapport au sens de notre boulot. Et ça, c'est important. Localement, par exemple, au niveau de la protection de l'enfance, bon, bah, l'Indre-et-Loire, hein, ça a été pas mal attaqué par rapport à ça. Et du coup, surtout, on voit arriver des nouveaux métiers dans les boîtes. Par exemple, à Verdier, qui est une boîte qui accueille des gamins placés par le juge des enfants, il y a un nouveau poste qui a été créé. Il y a un poste à la con qu'on appelle chargé de mission. Enfin, ce qui ne veut pas dire grand-chose, hein, en soi. Sauf que surtout, c'est un poste qui a une mission particulière. Le département va donner un financement aux établissements pour recevoir un certain nombre de gamins d'Indre-et-Loire. Au-dessus de son nombre d'enfants que les boîtes pourraient accueillir, du coup, le financement sera le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ce poste de chargé de mission qui existe. Donc, boulot, grosso modo, c'est de trouver des filons, je dis bien des filons exprès, de gamins qui viennent d'autres départements, de manière à ce que les autres départements leur filent de la thune. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un filon Corse. Mais il y a un filon de gamins qui viennent de Corse, qu'on fait venir, du coup, en Indre-et-Loire. Non pas parce que pour eux, dans leur projet de vie, c'est important, mais surtout bah, parce que la Corse va filer du pognon aux établissements d'Indre-et-Loire, du coup, et que les établissements d'Indre-et-Loire, ça va les aider à survivre en termes de financement.
Ça ressemble à un trafic humain, Les gens sont plus des gens, mais représentent une ressource, quoi.
Bon, d'abord, il y a la question importante de la question de la perte de sens. La perte de sens, parce que de plus en plus, on a une vision gestionnaire du travail social, et pas en termes d'accompagnement social éducatif. Ça, c'est clair que c'est des mots qui sont bannis. D'ailleurs, on l'entend de moins en moins, hein. Je veux dire, moi, dans ma grande entreprise... qui avait comme cœur d'existence la question de la mission d'intérêt général, c'est le mot performance qui apparaît là depuis un an. Performance, alors là, un nouveau mot. Après, optimisation, machin, je sais pas quoi, qualité, je sais pas quoi, c'est performance. Mais la performance à tout point de vue, c'est-à-dire qu'on va demander aux salariés d'être fiers de la boîte dans laquelle ils travaillent ou de l'entreprise dans laquelle ils travaillent parce qu'elle va pouvoir se vanter de travailler à la qualité, je veux dire, à plein de choses comme ça. Et comme on est en plein dans un monde de plus en plus concurrentiel, on arrive quand même à des trucs de fou. Moi, j'aurais dit, mais la performance, arrêtez avec ça. Je veux dire, on perd le sens. Le sens, c'était quand même la mission d'un intérêt général, mais voilà où on en arrive. Alors évidemment, là-dedans et dans cette perte de sens, bah, les salariés, donc les travailleurs sociaux qui normalement sont évidemment au cœur de l'accompagnement puisque c'est eux qui bossent sur le terrain, ne deviennent plus qu'une variable d'ajustement. Voilà. Et c'est ça le gros problème. Alors, et comme on est dans un système capitaliste qui est de plus en plus dans l'individualisation, on individualise de plus en plus cet accompagnement, ce qui nous amène à parler de clients, de machins, d'usagers, je sais pas quoi. Par contre, il y a un lissage collectif qui fait que de plus en plus les travailleurs sociaux adoptent le langage, qui est une nouvelle langue, hein, c'est du blabla terrible, adoptent ce discours. Et moi, je vois bon, mes stagiaires au boulot, moi je rigole hein, des fois, parce que je veux dire, j'ai réussi en CCE, parce que j'ai un mandat CCE, Comité Central de l'Entreprise, à leur faire quatre lignes sans ponctuation, avec les mots à la mode, hein, et ça avait de la gueule. Alors au début, ils me regardaient, les autres, la CGT, les autres syndicats, en disant qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, le Pierre, là, de Sud, parce que j'étais en train de dire qu'ils avaient fait un projet d'optimisation en 40 pages génial, et en fait, c'était de la daube. C'était de la daube où il n'y avait rien, il fallait lire entre les lignes pour savoir à quelle sauce on allait être bouffé, parce que c'est ça, la réalité. Hein. Donc, j'ai pris les mots, optimisation, machin truc, et je leur ai fait quelques verbes pour que ça tienne la route, et je peux dire que la première ligne, ils me regardaient bizarrement, on se demandait si j'avais pour fumer quelque chose, et qu'à la deuxième ligne, ils commençaient à se poser des questions, la troisième ligne, ça commençait à rigoler, à la quatrième ligne, ils ont dit chapeau. Mais voilà, donc quatre lignes sans ponctuation, avec les mots à la mode, tout le monde peut le faire. Donc le problème, c'est que, pour en revenir à la perte de sens, c'est qu'on est en plein dedans, quoi. Et donc, dans ce lissage fait que, par exemple, quand on parlait d'engagement, hein, du côté des travailleurs sociaux au début, on est en plein dedans. C'est-à-dire, et moi je parlais de conflit de valeurs, mais comment on peut être différent ou défendre des manières de travailler quand tout le monde parle la même langue, c'est-à-dire la nouvelle langue, c'est-à-dire rien, c'est-à-dire le blabla qui fait que tout le monde cause pareil et qu'on, dans ce système de marchandisation et de variables d'ajustement dans lesquelles on est, on devient des espèces de petits robots qui faisons du blabla et qui seraient obligés de travailler de la même manière. Quand Marc décrit la manière dont il doit faire du reporting, donc en fin de journée, pour savoir le quart d'heure qu'il a fait en relation, sans pouvoir dire grand-chose, à part qu'il a discuté avec la personne avec laquelle il essaye de construire un accompagnement, parce que s'il n'y a pas de relation, on arrive à des trucs de fou, parce que on va bientôt nous compter les heures où on va faire pipi, et plein de trucs comme ça. Pourquoi ? Pour rien. Parce que quand on compte tous les accompagnements qu'on fait, enfin en bagnole ou je sais pas quoi, quand on compte lui, il faut faire la toilette, envoyer, amener aux toilettes et je sais pas quoi et tout ça, quand il faut écrire ça en fin de journée, on va finir par paumer au moins une heure de travail. Et donc, en termes de qualité réelle, c'est-à-dire en revenant sur la question de la quête, la requête de sens, ça devient du tout et n'importe quoi, quoi. Quand, évidemment, l'enjeu il est là, hein, quand on fait une émission sur la question du travail social, le cœur de la question, c'est dans quel sens.
Pour revenir sur ce que Marc disait sur la novlangue, hein, faire dire aux mots des choses qu'ils veulent pas dire et masquer des réalités en les travestissant avec des mots qu'on a vidés de leur sens, ça m'a frappé tout à l'heure quand t'as parlé de compétences et de savoir-être, parce que les gamins au collège, pas dans les collèges de l'élite, hein, eux ils continuent à avoir une vraie école, hein, avec des vraies notes, mais aujourd'hui les mômes dans les collèges, on leur met des petites pastilles, tu sais, de couleurs, des petits smileys, des petits machins, et puis on évalue leur savoir-être, on évalue leurs compétences. Bon, évidemment, quand ils sortent de ce système-là et qu'ils se retrouvent en compétition dans des concours avec des gamins qui sont allés dans des vraies écoles, évidemment ils se font laminer et ils comprennent rien à ce qu'ils... Mais tu vois, c'est cette novlangue, on l'applique aussi aux collégiens.
Il y a 6 ans, j'ai eu un stagiaire. Et là, du coup, je me suis aperçu qu'il y avait eu un glissement énorme dans la formation que j'avais pas conscientisé. C'est-à-dire qu'en gros, je me suis retrouvé avec une grille d'évaluation pour le stagiaire. Je dis bien une grille d'évaluation exprès avec des domaines de compétences. Encore des codes. Et le pire, c'est que j'avais pas d'écriture à mettre. J'avais que des cases à cocher. Mais ce sont des trucs vraiment à la con. C'est-à-dire, est-ce que le stagiaire a la compétence de travailler en équipe? J'avais trois choix de cases. Très bien, bien passables. Voilà. Et je devais remplir un truc de ce type-là. Est-ce que le stagiaire, du coup, peut former un autre stagiaire? Si quelqu'un vient pour apprendre le métier, il vient pour apprendre. Il vient pas pour aller former quelqu'un d'autre. Il y a eu un glissement dans la formation, parce que à partir du moment où on parle de compétences qu'on peut avoir, en gros, pour être un bon éducateur à la sortie de la formation, il faut avoir remplir toutes les cases très bien. C'est qu'il y a un souci. On dispense aujourd'hui une formation, du coup, où le critère, c'est non pas de la réflexion que peut avoir la personne sur le sens de son métier ou sur pourquoi est-ce que je fais ça et je fais pas autre chose, ou bien même de se dire des fois juste de la remise en question personnelle en se disant bah là j'ai merdé, pourquoi, j'aurais peut-être dû faire autrement, et je vais en parler un petit peu en équipe pour voir comment j'aurais pu faire. Mais c'est plus ça maintenant. C'est en gros, est-ce qu'il a rempli toutes les cases pour dire que c'est un bon éducateur? Et si à la fin, il a rempli toutes les cases, à la sortie du diplôme, on va dire que c'est un bon éducateur parce qu'il y a toutes les cases très bien qui ont été remplies. C'est dramatique. Tout à l'heure, justement, ça me faisait sourire parce que le copain, il disait que bah, quand on était éducateur, on était de gauche. Bah, j'ai envie de te dire, bah, aujourd'hui, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que je suis sûr qu'on va voir sortir un tas de, non pas d'éducateurs, mais d'experts de la relation, et je dis ça entre guillemets, je dis ça pour être un peu provoque, mais d'experts de la relation qui auront coché toutes les cases, et que bah, ils pourront aller sur le marché du travail en bon travailleur social de droite. Et ça, je trouve ça hallucinant que maintenant, en gros, on aille dire aux futurs travailleurs sociaux qu'ils auront le choix de faire leur carrière soit du coup dans l'associatif, ou soit en libéral. Et ça, c'est un glissement incroyable, c'est-à-dire que aujourd'hui, on voit arriver une flopée d'éducateurs, du coup, qui se mettent en libéral sur des statuts d'auto-entrepreneurs ou autres, qui vont aller facturer des prestations, toujours entre guillemets, à des familles. Attention, je dis des familles qui en ont les moyens, hein, évidemment, parce que ça veut dire que pour accompagner leur gamin, s'il n'a pas dans une structure, parce que bah, c'est aussi ça la réalité, c'est que on n'a pas cette structure aussi par rapport au nombre de personnes qu'on aurait besoin. Mais il y a des familles bourgeoises qui auront les moyens, qui vont faire un appel à un éducateur de droite, qui s'est mis en libéral, qui va leur faire une petite facture, parce qu'il va travailler des compétences avec leurs enfants. Je dis bien, ça ferait des compétences, parce que justement, je bosse dans le domaine de l'autisme, et que le domaine de l'autisme, c'est le premier domaine où on va voir apparaître des travailleurs sociaux en libéral, qui vont aller chez les familles faire ce qu'on appelle du domicile, qui vont prendre les gamins pendant une heure, et une heure de leur temps de travail, du coup, ça va être facturé à 25 balles aux familles. Si on fait le lien aussi avec les politiques qui se paraissent actuellement dans le secteur, c'est qu'en fait, on veut faire sortir la logique au niveau politique, c'est de faire sortir aussi le travail social, comme disait Pierrot, de la notion d'intérêt général. On veut faire sortir ça pour faire rentrer aussi sur le capital, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, s'il y a des éducateurs qui se mettent en libéral, déjà en termes de sens par rapport au métier, ça pose des questions, mais c'est aussi qu'à un moment donné, eh bah, l'accompagnement des personnes qu'on aurait besoin, ça devient juste quelque chose qui rapporte du fric, mais qui rapporte du fric non plus aux établissements, mais en plus qui va rapporter du fric individuellement parce qu'on va les facturer ce qu'on fait. Et ça, je veux dire, dans le domaine de l'autisme, ça se fait énormément. Il y a même des boîtes en Indre-et-Loire qui existent, j'ai plus leur nom en tête, qui sont des plateformes, qui ont des sites internet où les familles vont s'inscrire sur le site internet, vont payer pour avoir le droit d'aller consulter un listing de travailleurs sociaux en libéral, et après ils vont choisir celui qui leur prend le meilleur pédigré, j'ai envie de dire, et le tarif du coup qui va correspondre le plus à leur budget. À côté de ça, il n'y a pas non plus une volonté politique de développer les établissements, qui en est plus. Au contraire, là aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est-à-dire que toutes les associations, globalement, aujourd'hui, s'il y a à rentrer à fond, ah, j'aime pas le terme, mais bon, dans ce qu'on appelle les appels d'offres, c'est juste pour continuer à exister. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la volonté, c'est pas qu'il y ait plus d'associations, du coup, qui puissent ouvrir des établissements. La volonté, c'est qu'il y ait le moins d'associations possible, qu'il y ait uniquement des grosses associations qui vont truster le secteur, mais pour avoir aussi le moins de boîtes possible. Du coup, pour à côté de ça, ouvrir le marché au libéral. pour voir le marché, enfin au capital, quoi, concrètement.
Pierre. Oui, c'est clair, c'est ce qui se passe au niveau national, hein, puisque on oblige les petites structures qui, de fait, ne deviennent plus concurrentielles, parce que les grosses structures arrivent à ce qu'on appelle à mutualiser. Donc tu enlèves des postes de comptable, de secrétaire, de machin, parce que tu mutualises. Et donc là, dans le cadre de la mise en concurrence et de la marchandisation du travail social, les petites structures ne sont plus concurrentielles. Donc elles sont menacées. Menacées, ça veut dire plus de financement, tout le monde à la rue, et voilà.
Hein,
et
là, accessoirement mutualisé, ça veut dire pareil, si tu as deux comptables d'un seul coup, ben, y en a un des deux qui gicle parce que tu vas pas en payer deux.
Ben, c'est clair. Rapporté au monde des éducateurs, c'est pareil, hein, c'est menacé puisqu'on les destine plutôt à être des coordinateurs d'équipe et pas être des gens de terrain, puisque les gens de terrain, on va les prendre sur des formations plus courtes et donc moins rémunérées sur les conventions, les différentes conventions qui existent.
Je revenais sur le mot mutualisé parce que ça fait partie de ces pièges du langage qui nous propose un mutualisé, c'est sympa, c'est intelligent, ça te donne l'impression qu'on est main dans la main et tout. Enfin bon, derrière, t'as une réalité sociale sordide, c'est qu'on vire des gens dans le caniveau, quoi.
C'est licenciement, bien sûr. Alors là, ce qui se passe, donc on assiste à donc un double phénomène. Donc évidemment, c'est des regroupements au niveau national et c'est des regroupements au niveau local. C'est-à-dire, au niveau local, on voit qu'il y a des structures qui disparaissent. Le secteur le plus menacé en ce moment, c'est la protection de l'enfance. Donc il y a des regroupements qui sont en train de s'opérer. Ça me fait rire parce que ça revient aux opérateurs, parce que là on revient aux opérateurs, ce qu'on appelle plus ça des associations. Mais il y a des opérateurs importants sur la place de Tours et tout le monde essaye de bouffer la plus grosse part de marché possible, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Et dans la part de marché, eh ben, il y a des salariés. Hein, donc, et les salariés qui sont menacés de licenciement, il y en a qui ont été licenciés. Donc quand tu es éduc et que tu es destiné à être coordinateur d'équipe mais que tu n'as pas besoin d'en avoir 15 000, eh ben, tu es sûr que tu vas rester sur le carreau pendant longtemps. Hein, donc tu n'as plus qu'à changer de boulot. Donc voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Et donc ça, c'est un vrai, vrai problème parce que on n'est pas dans le même monde du profit que dans la production commerciale proprement dite, mais cette manière de penser le travail social donne des trucs de fou rapportés à ce qu'il faudrait faire en termes de mission d'intérêt général. C'est-à-dire que finalement, autour de cette table, il y a quand même des gens qui aiment bien leur boulot, hein, sinon on ne serait pas resté aussi longtemps que ça. Et lui, il est venu à la formation, pas qu'en sortant du bahut, en ayant dans la tête beaucoup de mythes, mais je pense que c'est parce que ça l'intéresse. On pense aussi que notre boulot, il est utile. On voit bien qu'il faut reconstruire du sens. Parce que quand on ne sait plus comment on travaille, pourquoi on travaille et comment on le défend, etc., ben, ça pose de vraies questions. Quand on n'est plus géré par des gestionnaires et pas des éducateurs au sens large, hein, ça pose aussi de vraies questions. Il y a aussi quelque chose à reconstruire, c'est une véritable reconnaissance de ce travail utile et d'intérêt général. Et là, on l'a évoqué aussi auparavant, c'est la reconnaissance du fait qu'il faut quand même un minimum de formation pour pouvoir faire ce métier. Et que, en l'état, et on voit bien avec les mesures d'économie, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait le revaloriser à tout point de vue, c'est-à-dire au niveau du sens, mais aussi au niveau des salaires notamment, quoi.
Des prestations sociales, parce que maintenant on dit des prestations, vu que vous êtes des prestataires, en fait, du social. Mais pour ceux qui peuvent payer, c'est formidable. Et ceux qui ne peuvent pas payer, ben, ils vont se faire foutre, en gros, c'est ça.
Dans le domaine de l'autisme, là, Marc vient d'évoquer un truc évidemment d'importance. Parce que ça veut dire que les bourgeois vont pouvoir se payer des éducs à domicile. Mais il faut savoir une chose, hein, c'est pas non plus mirobolant. Parce que si on se rapporte au monde de l'aide à domicile, c'est que des emplois précaires. On ne pourra jamais avoir un plein temps. Et à part les coordinateurs, les coordinatrices, eux, ils ont des pleins temps. Les gens qui viennent du monde pauvre, de gens qui ne sont pas forcément qualifiés, surtout des femmes, il faut le savoir, eh bien, jamais ils auront de plein temps, même si elles bossent très bien, parce qu'il faut toujours avoir un volant, ce qu'on appelle un volant employable. Donc, c'est-à-dire que quand tu as des salariés pris en variable d'ajustement, eh bien, tu as sur la semaine tant de personnes à aller à aider à domicile, etc. Si tu fous des pleins temps, tu ne peux pas les balader comme tu veux. Donc, de toute manière, jamais il y aura plein temps. Et les élus qui veulent se mettre comme ça aussi en libéral, eh bien, à part faire chez les bourgeois payer très bien, eh bien, ils n'auront que des boulots de merde. Et donc, ça aussi, il faut le savoir. Hein. Donc, le problème de la précarité, le problème de l'individualisation, le problème de ce monde capitaliste, parce qu'il faut en venir aussi quand on parle de sens à ça, c'est que on précarise, on nous presse comme des citrons, je veux dire de plus en plus dans ce monde-là, comme dans le monde des services publics, hein, parce que ça relève de la même politique qu'est monnaie, et ça, il faut le dire encore, parce qu'on aime bien notre boulot, parce qu'on pense qu'il est utile, que c'est au détriment de la population, il faut le savoir, et des personnes accompagnées.
Ce qui est terrible, c'est qu'on vous verse finalement, vous les travailleurs sociaux, dans le grand domaine très flou de ce qu'on appelle l'aide à la personne, quoi. Et ça me fait penser à ce que tu dis au dernier film de Ken Loach, Sorry We Missed You, où on voit la femme, ses conditions de travail, faut que, voilà, elle a pas le temps d'adresser trois mots à la petite vieille, qu'elle est juste payée pour venir torcher et ramasser un truc. Elle est complètement prolétarisée, cette femme. Son boulot n'a aucun sens. Elle est juste là pour torcher et pas pour écouter.
Et pire que ça, hein, parce que je parlais de nouvelle langue, mais c'est vrai que ça fait référence à un bouquin d'Orwell qui s'appelle 1984, et ce bouquin-là, c'est Big Brother, ça veut dire que t'es surveillé de partout. Aujourd'hui, avec les techniques, et notamment les portables qui a le suivi GPS, ils sont en train d'inventer dans ma boîte, hein, ils sont en train de le faire. Nous, on a voté contre, justement en disant que c'était du Big Brother. Malheureusement, c'est passé, parce qu'il y a des syndicats qui ont voté pour ce genre de saloperie, mais par exemple, dans la branche d'aide à domicile, t'as des gens qui vont être suivis du moment où ils embauchent jusqu'au moment où ils débauchent par GPS. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils expliquent s'ils s'arrêtent à la boulangerie acheter du pain pour le soir, pourquoi ils ont mis autant de temps entre deux domiciles là où ils sont intervenus. Ça veut dire tout et de trucs de fou. Quand on regarde ces métiers-là qui sont sous-payés en termes de précarité, etc., qu'on peut pas vivre avec, qu'on peut pas faire un mois correct parce qu'on gagne évidemment généralement largement en dessous du SMIC et qu'en plus on est tracé de cette manière-là, ça devient un monde de dingue. Voilà, on peut dire ça, un monde de fou.
Pour parler d'un truc un peu plus pragmatique du coup sur comment est-ce qu'on peut faire, enfin voilà, je vais donner l'exemple où je travaille. En fait, moi je travaille dans une boîte, en gros, on va, nos pratiques sont issues de la psychologie comportementale. Alors c'est-à-dire qu'effectivement dans le monde des éduques, souvent ça fait freiner les cas de fer parce qu'en gros, bah, concrètement, je vais dans une boîte où on fait de l'ABA, de l'analyse appliquée du comportement. En tant qu'éducateur, là je parle pour moi, dans la philosophie, la psychologie comportementale, aso libertaire. Par contre, dans l'application, aso capitaliste. Aso capitaliste, parce qu'il y a une division du travail qui est énorme, grosso modo. Et ça donne quoi? Ça fait qu'en gros, bah, je bosse dans une boîte où les décisions ne sont pas prises par les éducateurs par rapport à ce qu'on va faire avec les enfants, mais sont prises par les psychologues. Attention, hein, mon propos, c'est pas de dire que les psychologues, c'est de la merde, hein, pas du tout. Il dit juste que le système en analyse appliquée du comportement fait que concrètement, on va complètement donner la responsabilité de l'accompagnement à uniquement une certaine catégorie de salariés. Et que les autres, du coup, se retrouvent uniquement dans un truc d'application, où on doit appliquer ce qu'on nous dit. Et moi, je pense que justement, pour recréer du collectif, dans ce genre de boîte, avant de parler de communisme ou de capitalisme un petit peu, j'ai envie de dire aux collègues, et on a des collègues qui sont à mille lieues souvent de ça, c'est qu'à un moment donné, juste recréer une espèce de conscientisation du métier et du sens, et surtout qu'à un moment donné, la primauté des décisions doit revenir aux équipes de terrain et non pas à des personnes du coup qui vont mettre en avant un savoir théorique qui voudrait dire qu'il y a uniquement ceux qui savent, du coup les sachants qui ont le droit de prendre des décisions et que le reste des éducateurs du coup qui sont là doivent uniquement appliquer les décisions. Et je pense que ça c'est important parce que ça soit dans ce genre de boîte là où je bosse ou dans d'autres boîtes, bah, bien souvent en tout cas, bah, la primauté des décisions elle dépend plus des équipes. Justement, soit dépendent des choix politiques des directions qui sont transmis via les chefs de service aux éducateurs, mais où du coup, en tant qu'éducateur, quelque part, on nous retire notre sens du boulot. On devient juste uniquement des personnes qui doivent appliquer des procédures ou bien toute autre merde du coup qu'on nous dit de faire. Mais à un moment donné, en termes de responsabilité, on se retrouve, comment dire, au quotidien, sans pouvoir maîtriser notre travail, mais aussi sans pouvoir maîtriser notre travail concret. Et ça, je pense que ça, c'est important. Et c'est une des premières portes d'entrée pour créer du collectif dans les équipes. Juste dire, bah, à un moment donné, les décisions pour un enfant, on s'assoit tous autour d'une table et puis on voit tous ensemble collectivement ce qu'on fait pour cet enfant-là. Et c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir nous dire ce qu'on doit faire.
Je suis un peu effrayé par tout ce que vous racontez, les amis, parce que d'abord, vos professions, elles sont tout à fait particulières, et puis ça prend du temps d'expliquer en quoi consiste le métier. En plus, quand vous vous mettez en grève, bah, vous n'êtes pas des cheminots, vous ne travaillez pas dans des raffineries, donc, entre guillemets, vous bloquez rien, voire même, vous avez charge de mauvaise conscience, parce que vous abandonnez les gens qui ont besoin de vous. Comment vous faites pour lutter ? Alors, certes, je vous vois arpenter le pavé derrière la camionnette de Solidaire, bon. Marc ?
Ouais, comment on fait pour lutter? Alors j'ai envie de dire, par contre, d'un point de vue syndical, je pense qu'on fait pas différemment d'ailleurs. On va voir les collègues avec des tracts, on va essayer d'organiser des AG dans les boîtes, et surtout, bah, à un moment donné, on va essayer de faire du collectif. Après, c'est vrai que c'est pas évident. on n'est pas dans un secteur où il y a une culture de lutte. Et il faut aussi savoir que dans notre secteur, des victoires qui viennent de la lutte, ça fait bien longtemps qu'on n'en a pas eu. Je pense qu'on est, les quelques syndiqués, effectivement, peut-être, qui avons aussi une vision plus politique de ce qui se passe dans notre secteur, le souci, c'est qu'il y a beaucoup de collègues, en fait, qui ont intégré que ça a changé, mais qui n'ont pas intégré ça avec une critique du système capitaliste, mais qui ont intégré le système capitaliste et qui pensent normal tous les changements qu'on connaît.
Comme tous ces jeunes en ce moment qui se disent mais à quoi bon lutter contre la réforme des retraites. De toute façon, on a toujours su que de retraite, on n'en aurait pas. Je l'ai appris à l'école, ce truc-là, sur les bancs du collège. Un jour, la prof d'histoire géo nous a sorti une pyramide des âges et nous avait expliqué très doctement. Vous voyez les enfants, tous ces vieux qui coûtent cher et qui sont des poids, des charges, machin. À cause de tous ces vieux qui travaillent pas, vous n'aurez pas de retraite. Moi, je l'ai appris à l'école au début des années 80. Comment s'étonner que deux générations plus tard, on ait des gens qui disent, bon, de toute façon, lutter contre la casse des retraites, ça sert à rien, hein, puisque la France est devenue un pays du tiers-monde, comme nous l'expliquent les médias dominants, qui n'a plus les moyens de payer ses profs et ses infirmières. Bon, c'est quand même ce qu'on nous dit, Pierre. Ah, mais il y a la dette, vous vous rendez compte?
Ça n'explique pas tout, je crois que on a intégré la machine à perdre. C'est-à-dire que tout à l'heure, on reparlait de ce qui s'est passé comme une espèce de compromis, consensus à la fin, après la Deuxième Guerre, compromis social, mais qui a été aussi acquis parce qu'il y avait un rapport de force en termes de lutte des classes.
Hein. Et puis c'est parce qu'à l'époque, les patrons rasaient les murs de honte parce que tout le monde savait très bien qu'ils avaient collaboré à mort avec les nazis. Et donc les capitalistes faisaient un peu moins les malins à l'époque. Ouais, alors, surtout que de l'autre côté du rideau de fer, il y avait quand même les chars de l'armée rouge qui faisaient que nos patrons étaient...
Ça fait tellement de temps qu'on perd que les gens pensent qu'on a toujours perdu d'avance la moindre lutte. Et c'est ça le gros problème. Marc disait, ce qu'on essaie de reconstruire, c'est ce qu'on appelle de la force collective. Il faut que les gens reprennent conscience que la force collective, c'est ce qui nous fera gagner. Or, c'est pas un coup de baguette magique, de construire de la force politique, c'est du boulot. Quand on construit du syndicat différent, comme on essaie de le faire avec Sud, on part de loin, donc il y a assez de choses. C'est la question de reconstruire de la force collective et syndicale, et politique aussi, parce que il y a aussi un autre problème historique maintenant, c'est que on a du mal à imaginer un autre horizon que le système capitaliste. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a que ce système qui existe et que cet horizon il est complètement dépassable. Or c'est complètement faux. Alors il y a deux systèmes qui s'opposent, c'est capitalisme ou communisme. Nous, anarchistes et communistes libertaires, on dit que il n'y a jamais eu de communisme dans le monde, c'était qu'une farce, une farce pas drôle, parce qu'il y a eu des millions de morts. Bref, il y a eu du capitalisme d'État. On nous a trompés sur la marchandise. Donc, il faut reconstruire, je parlais de sens tout à l'heure, on est encore en plein dedans, il faut reconstruire du sens, parce que il faut qu'on ait une véritable articulation entre la construction de la force collective pour lutter, ça en termes de lutte des classes contre les exploiteurs, mais il faut aussi qu'on puisse savoir vers où on va. Et ça, c'est ça la quête de sens. Là aussi, et donc dans quel monde on veut vivre et quel choix de société on veut. Donc on a vraiment un gros boulot à faire parce que on part de rien maintenant. Les gens pensent que le capitalisme est un horizon indépassable. Il faut leur expliquer que non et qu'il faut s'atteler à construire un autre projet de société et qu'en même temps il faut reconstruire de la force collective pour au jour le jour lutter contre les exploiteurs et améliorer nos conditions de vie. On a parlé de nos conditions de travail, mais on est en plein dans le cœur aussi de ce qu'on appelle nos conditions de vie. Mais c'est la même chose pour les personnes avec lesquelles on bosse, nous, en tant que travailleurs sociaux, parce que leurs conditions de vie, elles sont quoi? C'est la catastrophe. Que là, en plus, on a un combat commun à mener. En tout cas, ce combat, il ne peut être partagé que par la majorité de la population, parce que dans un système où c'est une minorité qui s'accapare les richesses au détriment de l'intérêt général. Voilà.
Voilà les amis, c'est ici la fin de cet échange avec Marc et Pierre, qu'on remercie bien. Conversation que tu peux retrouver sur notre site www.polemix-et-la-voix-off.com ainsi que tout un tas d'autres émissions plus passionnantes les unes que les autres, avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut.
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G 101.5 FM.
Maybe because you taught me then tame me. Lately you hate.
take me a minute to conjure up a plan of action good enough. Devise the plan and fuck it up. Now I listen to your double dutch. Whatever I do, it's not enough.